Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à vous toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire. En effet, jusqu'à midi, c'est Wagon Livre. Et nous allons aujourd'hui vous proposer une table ronde avec trois écrivains. Table ronde enregistrée le dimanche 12 octobre 2025 en Saône-et-Loire, très précisément à Blanzy, à l'occasion de la 5e édition du Salon Mine de Livres. Une cinquantaine d'auteurs invités, deux écrivains invités d'honneur, Estelle Tarot et Christophe Royer. Je voudrais d'ailleurs au passage remercier toute l'équipe de l'association organisatrice de ce salon, les remercier à la fois pour leur confiance mais aussi pour leur accueil chaleureux. Alors aujourd'hui vous allez découvrir trois ouvrages, trois auteurs, notamment un conte de Noël bilingue français-anglais, écrit par Martine Petit-Gabon, Disparition au pays du Père Noël. En effet, une mystérieuse disparition au pays du Père Noël compromet la distribution des jouets. Le Père Noël est bouleversé, il ne comprend pas ce qui est arrivé, et c'est Eureka, la petite lutine savante, qui va découvrir les origines de cette disparition. Parviendra-t-elle à trouver une solution ? Réponse, en tout cas, début de réponse dans l'entretien que vous entendrez avec Martine Petit-Gabon. Une page d'histoire avec un essai historique signé Daniel Carrasco, Le mercenaire de Dieu. En effet, nous reviendrons sur le personnage de Monseigneur Jean de Mayol de Lupé, né en 1873, disparu en 1955. Jean de Mayol de Lupé, qui a été aumônier militaire durant la Première Guerre mondiale et qui va se retrouver dans ce siècle tourmenté et qui va se laisser porter par les rencontres. En effet, il va épouser les idées fascistes et hitlériennes en fréquentant le milieu de la collaboration pétiniste. Il sera nommé aumônier de la Légion des volontaires français et partira combattre les armées soviétiques sur le front de l'Est. Mais nous allons ouvrir cette table ronde avec un des deux invités d'honneur. Je veux parler de Christophe Royer et de son thriller intitulé « Famille décomposée ». Christophe Royer qui, d'ailleurs, courant novembre, a fait paraître un nouvel ouvrage intitulé « L'escadron blanc ». Sans tarder, je vous propose de faire connaissance avec Christophe Royer. C'était donc le 12 octobre dernier, lors de la 5e édition du Salon du Livre Mine de Livres, une table ronde organisée par l'association et enregistrée en public.
Oui, effectivement, ça va faire bientôt 10 ans que j'ai commencé l'écriture. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, quelques rappels. Donc j'ai plutôt une formation scientifique, moitié informatique, moitié docteur en physiologie animale. Et j'ai toujours été gavé de livres de tout genre depuis que je suis tout petit. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie d'écrire mes histoires, alors que je ne suis pas du tout littéraire. C'est un peu un pied de nez à mon éducation et à ma dyslexie. Et donc, ça a été envie d'écrire les histoires que j'aurais envie de lire. Et c'est parti comme ça avec de la science-fiction avant de basculer.
Sans te flatter, les très bons scientifiques ont aussi souvent de bonnes compétences littéraires.
Il y a tout le côté petite mécanique. C'est vrai que quand on écrit un thriller, en fait, c'est une petite mécanique. Il faut amener le lecteur là où on veut l'emmener. Et on n'a pas droit à l'erreur. Donc c'est assez chirurgical. C'est vraiment des petites pointes. Il ne faut pas leurrer le lecteur. Il faut vraiment... C'est cette approche plutôt scientifique. Pour moi, elle est assez naturelle pour construire mes histoires.
Ouais. Alors, il y avait eu donc Projet Sapiens, les deux tomes, donc l'aventure littéraire et celle de l'écriture débutent en 2016. Et puis, depuis, alors il y a eu Lésion intime en 2019, Une arête dans la gorge en 2021, La quatrième feuille en 2022 et Néréide en 2023. Et voici donc le septième opus. intitulé « Famille décomposée ». Alors, avec ce nouveau roman, on retrouve le commandant Nathalie Lesage, qui d'ailleurs a des origines bourguignonnes, ancrées même dans le pays minier du Creusot.
C'est ça, oui, dans Les Yeux Intimes, on apprend qu'elle a des racines du côté de Montceau-les-Mines. On sait qu'elle est partie de sa famille de façon un petit peu dramatique. Et on va apprendre dans ce premier opus un petit peu ce qui s'est passé ou ce qu'elle va se rappeler au fur et à mesure du roman. Et c'est vrai que c'était amusant de faire la différence entre ce qui se passait dans les nuits parisiennes à Paris et ce qui se passait dans les nuits montsoliennes. Donc on s'aperçoit que des choses assez incroyables du côté de Paris et qu'à Montceau, on pouvait faire une certaine concurrence à certaines époques. Ouais.
Alors elle a 36 ans, elle vit dans un très bel appartement à Lyon, puisque c'est la ville où elle a été nommée, donc commandant de police. C'est une handicapée sentimentale, même s'il y a un homme qui entre dans sa vie, là, dans ce roman, Francis, sorte de forgeron qui crée de magnifiques couteaux. D'ailleurs, la première rencontre est très originale, puisque Francis arrive au lieu de rencontre avec un kilt, sans ne rien porter en dessous, d'ailleurs. Hein.
C'est ça, un bon vivant. Et c'était le genre de personnage un petit peu marginal qu'avait besoin de rencontrer Nathalie, qui avait pas mal d'expériences un petit peu dramatiques et au cours des aventures précédentes. Ouais.
Alors, l'action du roman se situe à Lyon et nous sommes au début du roman, pratiquement, au cimetière de Loyasse. On dit Loyasse ?
Loyasse
à Lyon, où, sur une tombe bien spécifique, Christophe ensuite expliquera, sur une tombe d'un défunt enterré dans ce cimetière depuis plus d'un siècle,
hein. C'est ça, 120 ans.
On retrouve un corps inanimé, un cadavre, bras en croix. Le but de cette mise en scène, c'est qu'il y a une dame, c'est Madame d'Aventure, qui régulièrement se rend et fleurit cette tombe pour des raisons particulières. Mais il se passe que le cadavre mis en scène, les bras en croix sur la pierre tombale, n'est autre que son fils.
C'est exactement ça. C'est pour bien commencer l'ambiance de mon roman. J'ai choisi ce lieu emblématique déjà parce que c'est la tombe de Maître Philippe, qui est une personne qui est décédée il y a 120 ans et qui a marqué profondément et qui marque toujours profondément l'histoire de Lyon. C'est pour beaucoup, c'est l'équivalent de la réincarnation de Jésus, enfin du Fils de Dieu sur Terre. Et c'est toujours considéré par certains de nos jours comme, après le Christ, c'est pour eux la personne qui a été envoyée par Dieu. C'est un peu un fidèle de Dieu. Donc c'est vrai que c'est voilà, les gens qui sont dans cette mouvance, ils croient dur comme fer. Et cette tombe, ça fait partie de la tombe qui est la plus fleurie de tout le cimetière et qui reçoit des centaines et des centaines de personnes tous les ans. Des gens qui viennent de toute la France. Apparemment, ce médium, ce maître Philippe, aurait sauvé des milliers de personnes à l'époque et de façon assez gratuite et assez incroyable.
Ta guérisseur, en fait.
C'est ça, un guérisseur.
Il a des pouvoirs, mais lui venant de Dieu, d'une certaine
Exactement,
manière.
Hein.
Il y a l'aspect chrétien est très important.
Oui, à fond. Ouais. Il a essayé d'avoir des diplômes de médecine, mais bon, ses méthodes dérangeaient fortement. Donc, il n'a jamais eu le diplôme en France. Il a eu des diplômes du côté d'Italie et il a été sollicité pour partir en Russie. Mais c'est vrai que c'est un homme assez incroyable. Et la scène que je raconte, comment on découvre le corps avec cette odeur d'encens, c'est vraiment ce que j'ai vécu en me promenant dans le cimetière quand j'ai fait mes repérages. Quoi.
Alors il y a aussi une spécificité autour de cette tombe. Tu as expliqué combien des fidèles venaient voir cette sépulture. Mais les personnes accrochent des billets sur lesquels sont écrits des messages.
C'est ça, c'est des messages de remerciement ou des vœux. Ils font des vœux et je vais dire pas la légende, mais en tout cas, les personnes mettent leur billet, ils le enroulent autour d'un ruban et ils le mettent autour des arbres qu'il y a autour de la tombe. Et c'est rempli, il y a même des fois de l'argent, il y a des billets. Et normalement, ça se dit qu'une fois qu'on sort du cimetière, le vœu est déjà en train de se réaliser. Donc on est sur ça, et régulièrement, les personnes qui s'occupent du cimetière sont obligées de recueillir, parce que c'est vrai que c'est du papier, hein, donc dès qu'il pleut, et ils ramassent des dizaines de papiers par semaine, quoi. Et donc c'est une tombe qui est assez hallucinante. Ouais.
Alors petite information complémentaire, puisque on visite Lyon, ville que je connais peu, il y a la tombe de Jacques Martin.
Oui, là, j'étais... Oui, alors c'est pas le même cimetière, c'est un cimetière qui est plus dans Lyon, je crois que c'est dans le 7e ou le 8e. Oui, parce que bon, c'est vrai que dans celui-là, on va visiter deux grands cimetières de Lyon, parce qu'on est amené à, forcément, famille décomposée, on se doute qu'ils vont pas tous rester sur leurs deux jambes. Et donc, oui, à un moment donné, en me promenant, j'étais tombé sur cette tombe en me disant, bah, Jacques Martin, c'est celui que je connaissais aux grosses têtes et tout ça. Et oui, le petit rapporteur.
Donc, le petit rapporteur, l'école des fans, etc. etc. Alors, Christophe, tu as extrait une citation de l'œuvre littéraire apparemment de Maître Philippe. Je la cite, « Sur cette terre, nous sommes tous frères, mais pas tous de la même famille. » Alors, on ne va pas déflorer le roman. Point de départ, donc, cette mise en scène, cadavre, mise en croix, qui est le fils de Madame d'Aventure, qui vient, je crois, quotidiennement sur cette tombe, vénérée, et elle est dans une mystique bien spécifique, et la famille d'Aventure a un lien avec indirectement avec ce Maître Philippe.
Oui, c'est ça, ça fait partie des familles qui ont croisé, leurs descendants ont croisé dans leur vie Maître Philippe, et c'est grâce à lui qu'ils ont pu perdurer la lignée. Et c'est vrai que c'est une mère très autoritaire qui parle que en citant les citations de Maître Philippe, et qui a une mainmise sur sa famille, une famille qui est composée de pas mal de personnes qui ont eux-mêmes des activités plus ou moins louches, plus ou moins ésotériques. Et c'est cette famille qui va subir les foudres d'un groupe mystérieux. Alors, est-ce que c'est lié à ces fameux secrets? C'est un petit peu le début de l'aventure. Et la police, mon héroïne, va essayer de comprendre pourquoi on en veut à cette famille, même si à chaque fois qu'elle va apprendre des choses sur cette famille, elle va être atterrée. Et en même temps, essayer de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce mystérieux groupe où on aurait un leader qui se fait passer pour un descendant de Rasputin.
Alors, la première victime, bon, était obsédé sexuel, bon.
Classique.
L'autre fils, il s'adonne à quelque chose, je ne connaissais pas, hein, Christophe, merci, grâce à toi, je me cultive. Donc, Auguste d'Aventure. Alors, lui, il est dans l'univers DDLG, ça veut dire Daddy Dom Little Girl. Alors, tu vas être bien embarrassé parce que je vais t'inviter à nous expliquer ce que cela implique.
C'est très simple, c'est des étudiantes, pour financer leurs études, en fait, vont sur certains types de réseaux et, en fait, demandent à avoir des papas, entre guillemets, qui vont être là pour leur faire des petits cadeaux, pour leur permettre de payer le loyer, de leur offrir des bijoux, des vêtements. Et à la place, donc, elle leur écrit des mots doux ou ils font des rencontres. Ou, voilà. Donc, ils jouent un peu au papa à la maman, mais de façon très, très malsaine, quoi. Mais c'est une manière dont pas mal, malheureusement, d'étudiants et d'étudiantes passent pour essayer d'avoir de l'argent. Donc c'est une forme de prostitution un petit peu déguisée, hein. C'est juste orienté avec ce côté malsain qui reste intrafamilial. Et donc malheureusement, c'est quelque chose qui est assez courant. Ouais.
D'autant plus que cet Auguste d'Aventure donc, est marié à deux filles et il va être piégé lui aussi parce que autour de cette famille d'Aventure, Christophe Royer l'a expliqué, il y a un petit trio dominé par un individu qui se croit être la réincarnation, qui se prend pour Rasputin, qui veut non pas spécialement tuer, mais surtout nuire, faire du tort. Autre personnage qui est victime, j'allais dire, des complots de ce trio maléfique, c'est Langlois, Robert Langlois. Alors lui, c'est l'oncle dans la famille d'Aventure. Alors Robert Langlois, il est à Lyon à la tête d'une structure, parce qu'il est beaucoup question de martinisme. Et il est à la tête, enfin c'est une branche, le martinisme, Christophe, je parle sous ton contrôle, c'est une branche ésotérique du christianisme.
C'est ça, c'est la branche un petit peu... extrême, du côté un peu ouais, ésotérique dans le sens où, oui, ils font tourner les tables, ils parlent avec les anges. En fait, tout ce qu'ils vont faire vers les anges. Après, ils s'attendent à ce que les anges refassent rejaillir sur Terre tout ce qu'ils ont envoyé de vœux ou de bonnes pensées. Donc c'est un peu un petit peu particulier, mais c'est quelque chose qui m'avait c'est pas encore super clair. Il y a des liens très étroits entre martinisme et franc-maçonnerie. Il y a des personnes qui sont aux deux en même temps. Enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un univers un petit peu flou. J'ai croisé des personnes qui m'ont expliqué ça, mais c'était quand même pas super facile. Mais en tout cas, ouais, ils sont encore très nombreux sur Lyon. Et sur Lyon, il y a vraiment eu une des. Le martinisme, en fait, il y a eu trois grands courants. Et un des courants est né à Lyon. Quoi. Et donc, ça m'intéressait d'aller piocher un peu dans cet univers. Ouais.
Alors, dans sa belle maison lyonnaise, Robert Langlois a une grande salle où, effectivement, se réunissent les adeptes d'un martinisme très traditionnel. Et lui va, effectivement, subir encore de sérieux embêtements, puisque le but, c'est de lui nuire en informant la presse. Et il y a cette histoire de tête de cabri noir dont la langue est coupée et déposée sur les tables de cette salle où ont lieu les réunions, Christophe. Alors, tu y mets des ingrédients qui mêlent religion, ésotérisme, une famille étrange dominée par effectivement cette femme qui les accable et qui est autoritaire et qui finalement n'a pas de sentiment, même quand elle voit le corps de son fils sur la tombe de Maître Philippe au cimetière Loyasse à Lyon.
Oui, c'est ça. Elle est tellement dans son univers. Elle vit à travers les paroles de, pour elle, son Dieu, son Messie. Et ça passe au-dessus de tout. Et c'est vrai que ça donne l'impression qu'elle est un petit peu en dehors de la réalité, qu'elle est détachée sentimentalement de ses enfants, qu'elle gère d'une manière très autoritaire. Et tout cet univers très noir. Tu parlais du bouc. Hein, c'est des choses. C'est un vieux rituel que j'ai retrouvé au niveau des martinistes, qui est plus du tout utilisé et qui est maintenant tout transformé sous forme de symbole. Mais ça, c'était mis en scène de façon encore à nuire et à renforcer toujours ces images qu'on a de ces sociétés secrètes. Qu'on essaye de diaboliser, c'est comme chez les francs-maçons, hein, en général, on rentre à 40 et à chaque fois on ressort à 39 parce que forcément ils ont exécuté quelqu'un à l'intérieur. Voilà, on est dans ces mythes, dans ces délires, dans ces complots, et c'est en se servant de ce genre d'image que ils essayent de nuire à cette famille d'aventure. Ouais.
Alors ton roman est extrêmement bien architecturé. C'est très dynamique. On est tantôt dans le squat avec les trois individus qui, effectivement, veulent nuire à cette famille. On est tantôt chez cette vieille Madame Bonaventure. Il y a aussi cette adolescente Romy, alors qui appartient à cette famille d'aventure, qui, elle, est très extérieure à tout cela. Elle a 16 ans, elle va passer le baccalauréat français, elle va rencontrer notre commandant Le Sage. Et puis Nathalie Le Sage, elle est dans cet univers un peu nouveau, comme nous, lecteurs, on découvre cette ville de Lyon aussi dans son agitation, dans ses aspects les plus sombres, les plus obscurs, avec son fidèle Cyril, qui ne pense qu'à manger d'ailleurs. Alors, on a parlé de la figure de Raspoutine parce qu'il y a plane la figure de Raspoutine. Raspoutine, on le sait, vit de débauche, un personnage extravagant qui d'ailleurs a été très influent avant la révolution russe de 1917, a été très influent auprès surtout de la tsarine, plus que du tsar d'ailleurs.
Oui, c'est ça, je me suis replongé dans cette époque-là parce qu'en fait, Maître Philippe, à un moment donné, a été appelé par Nicolas II parce que la tsarine n'arrivait pas à avoir de garçon. Elle avait que des filles. Et on lui a dit, à Lyon, il y a un médium qui va pouvoir te faire accoucher d'un garçon. Et donc, ça a été une guerre entre Raspoutine et tous les gens qui étaient derrière Raspoutine qui voulaient du pouvoir. Et donc, ce maître Philippe qui est arrivé en Russie et qui, la tsarine a accouché d'un garçon. Alors, effectivement, il était très, très chétif, très fragile, mais il y avait un garçon. Et donc, ça a été une guerre, et Maître Philippe est connu également en Russie par rapport à ça. Bon, après, ils ont réussi à le faire retourner du côté de Lyon. Mais voilà, donc c'est marrant, c'est chassé-croisé de l'histoire. Et Rasputin, c'est toujours quelqu'un qui m'a passionné de son histoire. Ça, c'est quand même assez incroyable, depuis tout petit jusqu'à sa mort rocambolesque. Et j'avais envie de mettre ça un petit peu dans mon histoire. Ouais.
Alors, je rappelle que Rasputin est assassiné le 30 décembre 1916. Alors, c'est le prince Youssoupov qui, entre autres, ouvrira le feu sur Rasputin, qui d'abord avait été convoqué à une collation et on devait lui faire manger des gâteaux qui étaient empoisonnés. Et finalement, il se rend compte que le poison n'agit pas. Rasputin reste totalement robuste, il ne tombe pas. Alors, il faudra je ne sais pas combien de balles pour le tuer. En tout cas, quand son corps est jeté dans cette rivière glacée de Moscou, on n'est pas certain que Rasputin était véritablement mort. En tout cas, c'est un colosse. Il a un physique impressionnant. Il suffit de voir les photos. Hein, il ressemble à ce qu'on appelle en Russie les starets, ces mystiques avec les très grandes barbes. Et ce personnage de Rasputin, toi-même, il te fascine. Tu t'es documenté. Tu connais bien Lyon. Mais il y a tout l'aspect historique, le martinisme. Tout cela demande des recherches. J'allais dire, tu as plaisir à utiliser ces ingrédients historiques pour les glisser dans une époque très moderne, très technologique.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'aime faire dans mes livres, c'est prendre plein d'éléments et que le lecteur, sans qu'il lise un livre d'histoire, il apprenne plein de choses et qu'il a envie de continuer l'aventure en creusant les différents thèmes. Et Rasputin allait parfaitement dans mon histoire avec ce chef de clan qui s'en prend aux autres. Et c'est vrai que sa mort a été assez incroyable. Hein, avec, il s'habituait à avaler de l'arsenic régulièrement, justement, pour pallier à ce type d'empoisonnement. Donc, il a fallu pas mal de balles. Et on a quand même, à l'époque, il y avait des photos. Donc, on a quand même la photo du corps de Rasputin qui a été repêché. Mais ça n'a pas suffi. Hein. Il y a, une fois qu'il a été enterré, parce qu'il était quand même célèbre, et il y a quand même plusieurs personnes qui ont été quand même le déterrer. Ils l'ont décapité, ils ont mis des morceaux un peu partout.
Et qu'ils l'ont brûlé, tellement ils avaient peur encore de son influence, même après la mort. Alors, ce qui est formidable, c'est que dans ton roman, Christophe, on apprend que Rasputin a eu une fille, et dans le roman, notre commandant va rencontrer la petite fille de Rasputin. Ça, c'est fiction ou c'est authentique ?
Qu'elle existe ? Non, c'est authentique.
La petite fille de Rasputin, alors peut-être est-elle encore en vie,
Oui, elle vit en France, du côté de Paris. Et ça a été un point de chauffe avec mon éditeur parce que moi, au départ, cette rencontre, il y avait ma flic et Cyril qui allaient la voir. Et ils sont rentrés dans la maison et il y avait un échange de dialogue avec des paroles et tout ça. Et mon éditeur a eu peur que, n'ayant pas obtenu l'accord de la personne qui est vivante, a eu peur que de la faire parler nuise et qu'ils aient des soucis après. Donc ils m'ont fait complètement changer ce chapitre et le faire beaucoup plus, on va dire, plat. Parce qu'au début, il était très vivant, il y avait un échange. Et en fait, là, c'était juste, ils racontaient la visite qu'ils ont eue. Et bon, j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, ce que je lui faisais dire à travers mes dialogues, c'est exactement les mots qu'elle avait donnés lors d'une interview avec Laurent Deutsch un an auparavant. Donc pour moi, je reprenais que des choses qu'elle avait dites. Mais ils n'ont pas voulu prendre de risque, donc ils m'ont fait faire un chapitre un peu plus morne. Mais bon, ils ne voulaient pas prendre de risque qu'ils aient un souci derrière et de rapatrier tous les livres.
Prudence de l'éditeur et audace de l'auteur.
C'est ça. Ouais.
Un Christophe censuré.
C'est ça.
Un peu. Ou disons un peu ramené au raisonnable. Alors que c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Alors, on ne raconte pas toute l'histoire. Est-ce que le commandant Le Sage, Nathalie Le Sage, va être capable de résoudre le nœud qui vient presque autour du cou de cette famille et qui a pour but de lui nuire, de lui faire peur et de lui créer moult désagréments? C'est à découvrir dans Famille décomposée, le dernier thriller. C'est un thriller ?
C'est un thriller, un thriller policier.
Le dernier thriller de Christophe Royer que je vous invite à applaudir et que je remercie encore.
Merci à vous.
Si l'intrigue du thriller Famille décomposée de Christophe Royer vous a intéressé, vous pouvez vous procurer l'ouvrage auprès de votre libraire habituel ou le commander sur le site internet des éditions Tornada, Christophe Royer, Famille décomposée, enregistré le 12 octobre dernier lors de la 5e édition du Salon Mine de Livres. C'était à Blanzy, en Saône-et-Loire. Vous êtes bien sûr Radion à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous propose un premier intermède musical et on se retrouve juste après dans l'univers féerique de Noël avec un conte de Noël bilingue, français-anglais, écrit par Martine Petit-Gabon, Disparition au pays du Père Noël. Mais c'est juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Mon cœur y va bien. J'ai juste deux draps, c'est gratinure, c'est rien. J'ai pas besoin de premiers soins. Hey. Tu peux garder ton venin, le ravaler. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'est moi qui suis sur scène et toi dans les gradins. Il paraît là que tu chantes mes refrains. Tu vois, fallait pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci en ce samedi 13 décembre d'être avec nous et de nous accompagner jusqu'à midi sur l'antenne de Radion. Je rappelle que nous vous proposons aujourd'hui une table ronde enregistrée en public. C'était le 12 octobre 2025 dernier, lors de la 5e édition du Salon Mine de Livres en Saône-et-Loire, très précisément à Blanzy. Nous allons maintenant rencontrer Martine Petit-Gabon, qui signe un conte de Noël intitulé « Disparition au pays du Père Noël », un conte illustré par Virginie Colomba, traduction assurée par Anne et Pat Balmer. L'échange avec Martine Petit-Gabon débute d'ailleurs par une certaine émotion de l'auteur qui a toujours eu un lien assez fort avec Blanzy et son pays. Martine Petit-Gabon.
Pour moi, c'est une certaine émotion de venir à Blanzy parce que mon papa était mineur à Roselet et mon papa est décédé il y a de nombreuses années et voilà, ma maman habite encore Montsolier-les-Mines et être ici, c'est important.
Alors oui, Martine Petit-Gabon, après ce rappel biographique où vous avez donc des origines très fortes avec ce pays de Blanzy que vous avez quitté, vous n'y êtes plus aujourd'hui.
Non, hein. Je ne suis plus à Blanzy depuis très longtemps, je suis installée en Haute-Savoie, dans un petit village tout près d'Annecy.
Alors peut-on vous demander de retracer un peu votre parcours professionnel, familial aussi, parce que vous êtes mère et grand-mère?
Voilà. Alors, je suis mère, grand-mère et fille. Voilà, donc je suis née ici, à Montsolier-les-Mines, en 1958. Je suis partie m'installer en Haute-Savoie pour mon activité professionnelle. Je travaillais auprès du Conseil général de la Haute-Savoie et j'encadrais les assistantes sociales du département. Et j'ai construit ma vie affective, maritale, sur la Haute-Savoie, tout en épousant quelqu'un qui est natif de Guignon. Donc voilà, c'est quand même pas trop... Voilà. Donc je suis maman de deux grands-enfants et je suis mamie de quatre petits-enfants.
Dont des franco-américains ?
Dont...
Franco-britanniques ?
Franco-anglais, voilà. Dont deux petites filles qui ont 10 ans et 8 ans. Et dont le papa est anglais, voilà, et ma fille est installée en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, près des lacs.
Et vous, quel est votre rapport, non seulement avec le Royaume-Uni, mais aussi avec la langue anglaise ?
Mon rapport avec le Royaume-Uni est un rapport affectif, uniquement, puisque ma fille y est installée. Et avec la langue anglaise, mon rapport est un rapport d'étudiante et d'étudiante pas très douée en anglais. Et la traduction en anglais est faite par ma fille et par sa belle-mère, en fait. Le fait de préciser que c'est repris par une anglaise est très important parce qu'il y a des tournures de phrases que nous avons en français qui sont très différentes en anglais. Et donc, la maman de mon gendre a accepté, pour participer à l'aventure familiale, de remettre, parce que Anne, donc ma fille s'appelle Anne, et Anne avait bien traduit, mais il fallait qu'il y ait des ajustements au niveau linguistique. Voilà. Mais sinon, ne me demandez pas de traduire une phrase que j'ai écrite en français en anglais, je ne saurais pas le faire.
Alors, bien sûr, on a souvent sur chaque page, à gauche, le texte français, à droite, la traduction en anglais. De plus, en français, en caractères gras et en couleur, certains mots que l'on retrouve en caractères gras et en couleur dans le texte britannique, ce qui permet bien sûr de retenir des mots-clés et d'agrandir son vocabulaire. Ce qui l'eût été encore plus profitable, c'était d'adjoindre au livre un CD audio.
C'est une aventure qui m'a traversé l'esprit. Néanmoins, cette aventure de l'écriture et du livre est une aventure d'amateur. Et financièrement, ça n'est pas quelque chose que je pense j'aurais pu assumer. Parce que ce petit livre pour les enfants est un livre en auto-édition et que ben, je pense qu'il n'intéresse pas des maisons d'audition qui auraient eu la possibilité de donner ce plus effectivement au fait que ce soit bilingue.
L'objectif voilà. Pour vous n'était pas une réussite commerciale, j'entends bien et je le conçois. Le but pour vous, c'était du partage finalement en associant certains membres de votre famille et la belle-mère de votre fille en Grande-Bretagne.
Alors, oui et non. Le passage à l'écriture de ces petits livres pour enfants, parce que j'en ai trois en fait, est un souhait que j'ai depuis très longtemps. Et comme mon voisin, malgré des lacunes ou des difficultés dans la langue française, mais j'ai toujours eu envie d'écrire. C'est quelque chose qui s'explique pas, qui est ancré et qui est là, et surtout envie d'écrire pour les enfants. Je trouve que le public, alors les adultes, quand on lit, c'est super et on est un bon public, mais l'enfant, quand il est intéressé par un livre et qu'on lui raconte quelque chose et qu'il est captivé et qu'il part avec nous dans une histoire, c'est une aventure en soi. Et c'est ça qui m'a attirée dans l'écriture de ce livre, des petits livres pour enfants, plus la rencontre avec un auteur qui m'a un peu poussée en me disant « mais si, tu peux le faire ». Voilà. Et ensuite, une fois que le texte en français a été fait, je collabore avec ma fille et je lui dis « t'en penses quoi ? Ça ressemble quoi ?» Elle me dit « maman, mais on va le faire en français et en anglais et ça sera super ». Et c'est parti juste comme ça, voilà.
Voilà, et donc, moment inquiétant, presque dramatique, quelques jours avant la tournée du Père Noël, le Père Noël n'a plus sa poudre magique verte, hein, c'est ça, elle est verte ?
C'est ça, alors et ça c'est dramatique.
Bien sûr, c'est dramatique, les enfants risquent de ne pas avoir leur cadeau le jour de Noël, et c'est donc les lutins, un lutin en particulier, qui va aller voir une lutine. Bien sûr, c'est la lutine qui va aller chercher cette poudre verte. Je n'en dis pas plus. Disparition au pays du Père Noël, The Father Christmas Mystery. C'est sous la plume de Martine Petit-Gabon, des illustrations de Virginie Colomba, traduction de Anne et Pat Balmer. Si on désire, les auditrices et auditeurs de l'émission de Radion veulent se procurer votre fascicule illustré bilingue, que leur conseillez-vous ? Comment faire ?
J'ai un site internet sur lequel les auditeurs et les auditrices peuvent retrouver ce que je viens d'expliquer et peuvent y retrouver les trois petits livres illustrés et me contacter, puisqu'il y a mon email et mon numéro de téléphone, et je me ferai un plaisir de leur faire parvenir. Voilà.
Merci Martine Petit-Gabon, que je vous prie d'applaudir. À l'instant, Martine Petit-Gabon, qui est l'auteur donc du conte de Noël bilingue français-anglais « Disparition au pays du Père Noël », un joli ouvrage illustré par Virginie Colomba, traduction de Anne et Pat Balmer. C'était donc le 12 octobre dernier lors de la 5e édition du Salon Mine de Livres. C'était donc en Saône-et-Loire, précisément à Blanzy. La suite de cette table ronde avec une page d'histoire. Nous entendrons en effet Daniel Carrasco qui signe un essai historique intitulé « Le mercenaire de Dieu ». En effet, Daniel Carrasco a choisi de revenir sur la vie, les engagements controversés et la fin de Monseigneur Jean de Mayol de Luppé, dont la famille est originaire de Côte d'Or, Nuits-Saint-Georges. Monseigneur Jean de Mayol de Luppé est né en 1873, il est mort en 1955, et on a beaucoup disserté sur la vie et l'histoire de ce personnage. Il faut souligner les liens avec la Bourgogne et son héritage familial. En effet, Jean de Mayol de Luppé sera aumônier militaire durant la Première Guerre mondiale. C'est un héros qui se verra remettre de nombreuses décorations. Après la guerre, il est égaré et trouve difficilement sa place dans ce XXe siècle tourmenté. Il se laissera porter par les rencontres et épousera les idées fascistes et hitlériennes en fréquentant le milieu de la collaboration pétainiste, les officiers allemands et Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich en France. Jean de Mayol de Luppé deviendra aumônier de la Légion des volontaires français et partira combattre les armées soviétiques sur le front de l'Est. Parcours à découvrir juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer. Si vous venez de nous rejoindre sur Radiole, sachez que c'est votre émission littéraire, c'est Wagon Livre, et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Wagon Livre, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous vous proposons une table ronde enregistrée en public lors de la 5e édition du Salon Mine de Livres. C'était à Blanzy, en Saône-et-Loire, le 12 octobre dernier. Une cinquantaine d'auteurs invités et deux invités d'honneur, Estelle Tarot et Christophe Royer, que vous avez pu entendre en ouverture de votre émission. Comme je l'annonçais avant la virgule musicale, nous allons maintenant découvrir la vie, les engagements et la fin du parcours de Monseigneur Jean de Mayol de Luppé, né en 1873, disparu en 1955. Daniel Carrasco s'est en effet penché sur ce personnage dont la famille est originaire de Côte d'Or, précisément de Nuits-Saint-Georges. Il est l'auteur d'un essai intitulé « Le mercenaire de Dieu ». Jean de Mayol de Luppé, issu donc d'une haute famille aristocratique, qui lui-même deviendra ecclésiastique, participera à la guerre de 14-18 en tant qu'aumônier militaire, et qui durant l'occupation va très rapidement se laisser séduire par les idées fascistes et hitlériennes, en fréquentant assidûment le milieu de la collaboration pétainiste, les officiers allemands et le séduisant ambassadeur du Reich à Paris, Otto Abetz. Monseigneur Jean de Mayol de Luppé, nommé aumônier de la Légion des volontaires français, qui partira combattre les armées soviétiques sur le front de l'Est. Faisons d'abord connaissance avec l'auteur de cet essai intitulé « Le mercenaire de Dieu », Daniel Carrasco, enregistré le 12 octobre dernier lors de la table ronde que j'animais dans le cadre de la 5e édition du Salon du Livre de Blanzy.
Je suis natif de Béziers. Mais je suis bourguignon depuis 1970 maintenant. Vous voyez, donc, quand je vais dans le sud, on me dit « tu n'es plus de chez nous, tu parles pointu ». En réalité, non, je parle pas tout à fait pointu. Donc, j'ai rejoint mon épouse qui est de Meursault. voilà, et d'une famille de vignerons.
Alors, dans cet essai, Le mercenaire de Dieu, vous revenez sur un personnage historique au parcours atypique qui s'appelle Jean de Mayol de Lupé. Il est né à Paris en 1873, il meurt en 1955 dans son appartement parisien. Alors, il est, on va essayer de dire le maximum, de donner le maximum d'informations. L'ouvrage est passionnant, fourmi de nombreuses informations sur le parcours de cet homme, et c'est aussi un retour sur une période délicate qui n'est pas si lointaine que cela, à savoir celle de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation et de la collaboration. Issu, notre Jean de Mayol de Lupé, issu d'une grande famille aristocratique qui possédait des biens et notamment des vignes à Nuits-Saint-Georges, donc dans ce beau département de la Côte d'Or.
Oui, donc la famille de Jean de Mayol de Lupé, c'est une famille effectivement issue du sud déjà, hein, de la France, notamment au Xe siècle. Donc c'est une famille très ancienne. On retrouve d'ailleurs dans cette famille un père abbé de Cluny, vous voyez, au Xe siècle. Enfin bref. C'est quelqu'un qui est très connu. Et la famille de Mayol de Lupé va s'installer à Nuits-Saint-Georges en 1838 et va racheter d'ailleurs un couvent hein, de Capucines et va s'installer donc pour faire à la fois l'exploitation des vignes sur Nuits-Saint-Georges et le commerce du vin.
Alors vous revenez effectivement sur le déroulement, l'évolution chronologique de cette grande famille qui a finalement un esprit aristocratique, chevaleresque, qui va contribuer et s'investir militairement dans l'histoire de la France. Je vais un peu vite. Au point que Jean de Mayol de Lupé, lui, est mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, vaillant combattant, et n'oublions pas que il a une formation religieuse puisqu'il voulait devenir prêtre et il le sera. Alors il est décoré parce que il a obtenu un grand nombre de distinctions militaires lors de la Première Guerre mondiale.
Voilà. Alors le paradoxe de ce personnage, c'est d'abord quelqu'un issu, on l'a dit, d'une famille aristocratique qui avait quand même un certain nombre, j'allais dire, de points de vue très marqués. Notamment, il était contre la Révolution française, contre la République, contre la Marseillaise, contre le drapeau français, etc. Donc quelqu'un de marqué, donc sur le plan, à la fois idéologique et qui va rentrer donc dans les ordres. Au début du siècle, en 1900, et il sera ordre des prêtres en 1927. Et donc il va être très très rapidement, lorsqu'il aura été ordonné prêtre, il va être aumônier déjà dans l'armée, hein, où il deviendra, un homme, mais qui sera tout à fait particulièrement engagé pour aider les gens. Autrement dit, c'est la partie la plus intéressante du personnage qui va être reconnue, et en particulier les militaires qu'il a côtoyé disait que c'était vraiment quelqu'un qui n'hésitait pas à se dévouer pour aller sauver les gens ou pour leur donner leur extrême onction sur le champ de bataille. Bref, c'est la raison pour laquelle ce personnage-là va sortir de la guerre 14-18 tout à fait honorablement et reconnu en étant décoré, etc., comme un homme de grandes valeurs, notamment militaires et sociales.
Et n'oublions pas que lors de la Première Guerre mondiale, Jean de Mayol de Lupé sera prisonnier, hein, 2 ans de captivité. Et c'est vrai que les témoignages de ses camarades de combat donnent de lui une image d'un homme courageux et qui est effectivement le sens de la camaraderie et du réconfort. Alors, arrive la guerre de 39. C'est vrai qu'il voulait continuer à rester dans l'armée, mais il est un peu coincé par son âge. Hein. Je rappelle, il est né en 1873. Alors, il va beaucoup voyager, il va être écrivain, il va, je crois, écrire régulièrement dans une petite gazette. Et puis, il est allé en Allemagne, il se sent assez proche des idées de l'Allemagne nazie, et notamment de celle du chancelier du Reich. Il s'agit de lutter contre le communisme, le bolchevisme. Et puis, il y a aussi, de sa part, la consternation devant ce qu'il appelle la décadence de l'être humain et qui lui fait très peur.
Oui, alors effectivement, en ce qui concerne, lorsqu'il sort de l'armée et qu'il est reconnu par la société en général, c'est quelqu'un qui va, de par son intelligence, côtoyer un certain nombre de personnes, de personnages, de personnalités, et en particulier l'ambassadeur de France en Allemagne. Et il fait la connaissance à cette occasion de Monseigneur, c'est Roncalli, je crois, de mémoire, qui est le futur pape Pie XII. Et ça va engendrer un certain nombre de reconnaissances, et en particulier sa maman étant, son arrière-grand-mère plutôt étant d'origine italienne. Et c'est là, comme ça, d'ailleurs, qu'on va expliquer que Pie XII le fera évêque. Mais évêque non pas chargé d'un territoire, mais évêque, c'est une reconnaissance au niveau de son titre. C'est pour ça qu'on l'appellera Monseigneur. Donc, il va se chercher et on va le voir petit à petit rencontrer des personnages à partir des années 1930 et 32, où il va rencontrer des groupes politiques, notamment d'extrême droite en France, hein, et peu à peu, ce personnage-là, donc, vient le Front populaire, etc., qu'il combattra, et peu à peu, on va le retrouver à partir de 1939 et en 40, avec l'occupation, on va donc le retrouver proche du parti de la collaboration.
Et alors, en particulier du parti de... Voilà. Oui, pardon, Daniel. Donc, effectivement, il se rapproche des milieux pétainistes, et notamment des grands milieux de la collaboration. Il côtoie Darnan, Marcel Déat, qui va créer donc la LVF. Et puis surtout, vous l'avez dit, oui, sans en donner le nom, c'est l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, qui est le bel officier Otto Abetz. Alors, à partir de là, est créé la France, s'engage tout de même aux côtés de l'Allemagne, va être créé en juin 1941, la LVF, la Légion des Volontaires Français, qui est donc qui doit épauler la Wehrmacht contre l'armée soviétique. Et c'est là que votre personnage, qui n'est pas un personnage de papier, va redevenir aumônier de la LVF.
Voilà. Alors donc, Otto Abetz, qui est un de ses proches, donc va lui proposer de rentrer comme aumônier de la Légion des Volontaires. Alors nous sommes là en 1944, donc la guerre est en voie d'achèvement, dans la mesure où les troupes alliées combattent, et on sent que le nazisme va disparaître, et se crée à ce moment-là la LVF, la fameuse LVF, la Légion des Volontaires Français. Alors, ce qui est dramatique, c'est que disons que cette LVS, cette Légion des Volontaires Français, va regrouper 7000 jeunes. Alors, malheureusement, l'histoire sera tragique pour cette Légion, puisque le combat contre les armées soviétiques est perdu, et tragiquement perdu, puisqu'il ne reviendra seulement que 700 de nos jeunes, et ce sont souvent des jeunes français. Alors, une petite anecdote que je souligne dans le livre, c'est que avant de partir combattre sur le front de l'Est, cette légion va faire un détour par Sigmaringen, Et vous le savez, Sigmaringen, c'est un château qui se trouve en Allemagne, où Hitler avait, voyant que les choses se décomposaient, avait regroupé en son sein le maréchal Pétain, Pierre Laval, etc., avec tout l'aréopage, j'allais dire, pétainiste, qui pensait grâce aux armes de dernière minute. Vous savez, à la fin de la guerre, on pensait qu'il allait y avoir des armes magiques, notamment avec les V1 et les V2, etc. Et tout ce petit monde-là vivait en vase complètement clos. Hein, et avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut rencontrer au niveau de la mesquinerie, des petites histoires entre ces gens qui avaient eu le pouvoir, et un pouvoir très, très important en France, et qui se retrouvaient complètement cloîtrés dans un château. Tout ça pour dire que la LVF avait décidé de faire un détour par Sigmaringen et pour aller honorer le maréchal Pétain. Et elle avait une très mauvaise réputation. Elle était si mauvaise, cette réputation, que le maréchal refuse de les recevoir et indique aux responsables d'aller s'adresser à Laval, à Pierre Laval, qui était aussi dans cet endroit-là, dans ce château-là, avec lequel il entretenait des relations tout à fait difficiles. Et Pierre Laval, lui aussi, va refuser de recevoir les gens de la Légion de la LVF qui, face à de tels comportements, part et rejoindre l'Est.
Véritable camouflet, effectivement, pour les membres de la LVF. Maintenant, on retrouve notre Jean de Mayol de Lupé, qui, lui, donc, s'était installé à Munich et qui est arrêté par les Américains en 1946. Les Américains le livrent aux autorités françaises qui ont libéré le pays. Et là va commencer pour lui l'époque où il va devoir répondre de ses actes, notamment son investissement idéologique pour l'Allemagne nazie, et également, bien sûr, sa participation en tant qu'aumônier dans la LDF. Alors, en mai 1947, s'ouvre le procès de Jean de Mayol de Lupé. C'est l'époque de l'épuration. Qu'arrive-t-il ? Comment est-il condamné ? À quoi est-il condamné ?
Voilà. Alors, donc, son jugement va se faire donc sur Paris. Et bien entendu, c'est un homme qui aura un comportement qui ne reniera rien, loin s'en faut. Au contraire, il aura même une vision un peu, enfin, une attitude un peu, j'allais dire, qui déplaira fortement au tribunal. D'ailleurs, on le retrouve, puisque j'ai repris in extenso tout le déroulé du jugement, et il sera condamné à 15 années d'emprisonnement. Et donc, en réalité, il ne les fera pas. Au bout de 5 ans, il n'en fera que 5 années. Et au bout de ces 5 années, il sera malade. Et alors, il a été condamné à 15 ans d'emprisonnement, déchu de toutes ses décorations et de sa citoyenneté.
Hein. Confiscation de ses biens.
Voilà, confiscation de... En réalité, il semblerait qu'on ne lui ait pas confisqué son appartement de Paris, puisque c'est là où il va
mourir en 55. Voilà. Et puis surtout, c'est qu'il perd sa Légion d'honneur.
Voilà, et c'est surtout ça qu'il a particulièrement...
C'est un point commun qu'il a avec Nicolas Sarkozy. Qu'il a perdu sa Légion d'honneur. En revanche, l'Église...
Un peu hasardeux.
L'Église, parce qu'il appartient à l'Église, pape, les autorités religieuses ne l'ont condamné à rien.
Non. Alors justement, là aussi une petite anecdote. Il avait un de ses neveux qui avait été emprisonné dans un camp de concentration, et qui va célébrer la messe dans sa cellule le dernier Noël qu'il passera avant de mourir. Alors, donc, ce que je voudrais dire en conclusion de cette aventure de ce personnage-là, c'est que j'ai fait ce livre-là après en avoir fait, c'est mon troisième livre, Et je m'attache en général dans les livres que j'écris pour raconter l'histoire de personnages. La première histoire parlait d'un homme qui était d'ailleurs de Saône-et-Loire, qui s'appelait Adelin Griot, qui était médecin et qui était directeur aussi de l'hôpital de Bourbon-Lancy. Et donc cet homme-là, qui était donc le grand-père de mon épouse, était parti, bien malgré lui, aux Dardanelles pour soigner les gens qui combattaient là-bas. Et donc, ce que j'avais trouvé intéressant, parce qu'il avait écrit un petit bouquin, un petit livre sur un petit livret, c'était une écriture en pleine et en délié, comme on disait autrefois, et j'avais trouvé que cet homme-là, il avait foi en la France, il avait foi en ses chefs de guerre, etc. Et peu à peu qu'il avait passé ses 6 mois aux Dardanelles, il en était revenu complètement transformé parce que ça s'était pas très bien passé, que quand on perd une guerre comme celle des Dardanelles, hein, c'était les franco-anglais qui devaient prendre Istanbul pour bloquer le passage de Bosphore et qui n'était pas parvenu. Bref, tout ça pour dire qu'il était revenu vraiment très très déçu. Le deuxième livre que je fais, je le dis rapidement, c'est l'histoire du dernier maire républicain de Barcelone qui, le hasard a voulu, qu'il aboutisse à Béziers chez ma grand-mère qui était une commerçante qui vendait des chaussures et qui l'avait caché. Et un jour, l'histoire aussi est tragique, puisque ma grand-mère a vu arriver dans sa boutique la Gestapo, et il pensait que tout le réseau, notamment la Gestapo cherchait le fameux maire républicain de Barcelone, qui s'appelait M. Hilari de Barcelone, Hilari Salvador y Castel de Barcelone, voilà, je vais y arriver. Et donc, en réalité, la Gestapo ne cherchait pas ces personnages-là, bien qu'il était recherché. Il cherchait Jean Moulin, puisqu'il se trouve aussi que Jean Moulin, c'est une personne qui est née à Béziers et qui était le voisin de ma grand-mère. Il cherchait Jean Moulin et en fait, ils se sont dit à l'époque, ma grand-mère et mes parents, c'est trop dangereux, Hilari et Paquita, son épouse, il faut les cacher, mieux les cacher. C'est comme ça qu'ils ont abouti chez mes parents pendant 2 ans, qu'ils les ont cachés à Béziers. Voilà. Et j'ai raconté cette histoire-là parce que en Espagne, on a reconnu tout ce que cet homme avait fait pour Barcelone quand Barcelone a été bombardée. Et donc, nous avons été conviés à participer à l'inauguration d'une place. Voilà. Et alors, je termine. Pourquoi le personnage de M. de Mayol de Lupé, du Mgr de Mayol de Lupé? Tout simplement parce que j'ai trouvé quand même que cette famille qui avait pendant 1200 ans... était en France, qui avait beaucoup œuvré à Nuit-Saint-Georges, puisqu'un certain nombre de réalisations à Nuit-Saint-Georges, que ce soit l'hôpital, que ce soit ce qu'on appelle le château gris, le vignoble, etc., je trouvais injuste que, parce que l'un de ses descendants avait péché ou s'était complètement vautré dans la collaboration, que cette famille était quasiment devenue, inconnue à Nuit-Saint-Georges et en même temps rayée de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé que c'était une injustice que j'ai essayé, si vous voulez, de corriger, enfin, modestement, pour dire que cette famille, elle ne méritait pas ce que son aïeul lui avait réservé en fin de compte.
Merci Daniel Carrasco. Donc je rappelle Le Mercenaire de Dieu, un personnage issu d'une vieille et illustre famille nuitonne, donc de Mgr Jean de Mayol de Lupé, 1873-1955, qui est donc devenu aumônier à la LVF, division Charlemagne de la Waffen-SS. Donc sa vie, ses engagements controversés et la fin. Des applaudissements pour Daniel Carrasco.
Merci, merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Daniel Carrasco enregistré le 12 octobre dernier lors de cette table ronde de la 5e édition du Salon du Livre de Blanzy que j'animais avec les auteurs invités. Daniel Carrasco qui signe donc cet essai historique qui a pour titre « Le mercenaire de Dieu » et qui revient donc sur le parcours et les engagements de Jean de Mayol de Lupé. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'association organisatrice du salon Mine de Livres de Blanzy. Je rappelle que si vous avez manqué une partie de cette émission ou si vous n'avez pas eu le temps de noter les références des ouvrages qui ont été évoqués dans cette table ronde, vous pouvez très facilement les retrouver sur le site internet de l'émission Wagon Livre de Radion, yannickpetit.fr. Je rappelle Famille décomposée, le thriller de Christophe Royer qui était un des deux invités d'honneur de ce salon. Christophe Royer qui a fait paraître un nouveau thriller depuis fin novembre et qui a pour titre L'Escadron Blanc. Notons aussi ce conte de Noël bilingue français-anglais sous la plume de Martine Petit-Gabon, Disparition au pays du Père Noël, et puis Le mercenaire de Dieu, l'essai historique de Daniel Carrasco que vous venez d'entendre dans Wagon Livre sur Radiole. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier de votre curiosité et de votre écoute fidèle. La semaine prochaine, nous faisons une petite halte de Noël avec un Wagon Livre spécial Noël. Nous vous proposerons des chansons, des textes, mais également des poèmes, tous en lien avec cette belle fête qui approche d'ailleurs à pas feutrés. Et nous vous diffuserons la deuxième table ronde du Salon du Livre de Blanzy le 27 décembre prochain, toujours à 11h sur Radion. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.